Il y a une question qui arrive là. Avez-vous entendu parler des Mokens? La scientifique Anna Gislen s'intéresse depuis plusieurs années à un peuple nomade maritime d'Asie du Sud-Est, les Mokens. Elle a remarqué qu'à force de plonger pour aller pêcher, les enfants de ce peuple ont les yeux qui s'adaptent parfaitement à l'eau, tels de véritables dauphins. Qu'en penses-tu, Julien?
Déjà, formulation, bon, est un peu douteuse, mais bref, je connais pas. Et puis, en fait, faut voir depuis quand existe ce peuple. Est-ce que ça a pu émerger par sélection naturelle? Parce que ceux qui ont ça, ça serait mieux reproduit. Je sais pas, mais ça adapte parfaitement à. Ça me fait toujours peur.
Mais jamais ça te paraît plausible?
Non, mais mais faut regarder. J'en sais rien. Je connais pas l'exemple. Mais je
Il faudrait que la mutation qui amènerait à avoir des yeux comme ça apporte à ceux qui le... Ça leur apporte pas seulement l'intérêt de pêcher, quoi. Ça leur apporte un succès reproducteur plus grand pour que ça se transmette.
Et du temps long, parce que les générations humaines, c'est quoi, 25, une génération,
25 ans, ouais.
Donc ça, me paraît assez peu probable. Il faut du temps, quoi.
Ça me paraît un peu cousu de fil blanc, cette affaire. Je pense qu'on pourrait la documenter, je regarderai. C'est pas très gentil, l'araignée pour les arachnophobes. Pardon. C'est vrai. Autrement, on a un autrement compassionnant qui démontre plein d'arguments fastidieux. Merci à vous et à votre invité. Eh ben de rien, on est là pour ça. Il y a une question, petite erreur sur Apis mellifera. Donc l'abeille, les ouvrières peuvent se reproduire, contrairement à ce qu'a pu dire Julien. Je suis d'accord, oui. Mais ce sont des cas bien particuliers.
Et j'ai fait une autre erreur, j'ai dit qu'avec leur sœur, la reine, en fait, la reine c'est la mère, mais elles aident leur sœur à se reproduire indirectement de cette manière. Bon.
Mais c'est une bonne remarque.
On est passé un peu vite, mais
tout
oui.
Tout à fait. Il y a des circonstances dans lesquelles une ouvrière peut se mettre à pondre. Mais elle va pondre... Bon, je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais je sais qu'il y a...
Il a des ruches, donc il faut l'excuser.
Le garçon qui pose la question, je ne vais pas le dénoncer, mais lui aussi, il a des ruches. Donc, on en discutera. Mais oui. Mais d'ailleurs, je crois que je vous ai touché un petit mot là-dessus au cours précédent, quand j'ai dit que l'ovule de l'Apis mellifera est viable, même non fécondé, et devient un des mâles qu'on appelle le bourdon. Je crois que je vous l'ai raconté au tout début. Un avis sur le pastafarisme, mais j'en ai déjà parlé dans ce cours, cela n'est pas moins étrange que la création en 7 jours, je suis bien d'accord avec vous. Et effectivement, c'est un des arguments pour dire le pastafarisme, c'est le Flying Spaghetti Monster, le monstre en spaghetti volant, dont je portais un t-shirt, je crois, au cours numéro 4. Et la démarche de ce genre de culte alternatif, c'était de montrer que si on acceptait le créationnisme d'une religion dans un contenu d'enseignement, par exemple, qu'est-ce qu'on faisait des créationnismes d'autres religions? Et est-ce que si on accepte le monde créé en 7 jours et inventé en 4004 avant Jésus-Christ, le 23 octobre, qu'est-ce qu'on fait du monstre en spaghetti volant, de la licorne invisible et rose, du pégase marron furtif et autres cultes comme ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas discrimination? Et c'est un argument qui est, ma foi, recevable. D'ailleurs, je sais qu'il y a un des arguments qui est sorti souvent à propos du Flying Spaghetti Monster, c'est donnez-nous, à nous, défenseurs du Flying Spaghetti Monster, des arguments contre notre foi qui ne s'appliqueraient pas à la vôtre. Je vous laisse réfléchir. Tu voulais rajouter quelque chose? J'ai vu que tu trépignais.
Je trépigne sur ça.
La prochaine grosse évolution de l'homme, tu veux lire?
La prochaine grosse évolution de l'homme se ferait-elle par la machine, donc transhumanisme en fait, par la machine? Pourquoi est-ce autant discuté en ce moment? Y a-t-il des choses qui ont été faites à ce sujet, un plan, etc., ou c'est toujours de la science-fiction? Les volontés transhumanistes, c'est aussi de pouvoir scanner en quelque sorte notre pensée et puis la transférer dans le réseau après notre mort. Et que voilà, ça, c'est des grandes idées transhumanistes défendues par le grand gourou, je sais, j'ai perdu son nom. Mais en fait, c'est pas de l'évolution en tant que telle, quoi. Parce qu'au final, on peut se rajouter des implants, on peut se relier à la machine, on peut, voilà. Mais c'est toujours pareil, en quoi ça changerait nos attributs corporels biologiques. Toujours pareil, il faudrait que ceux qui aient ça se reproduisent plus et les transmettent à leur descendance. Donc c'est pas vraiment de l'évolution, quoi.
Le transhumanisme a commencé dès la canne.
Il n'y a plus personne.
Dès les lunettes, c'est pas grave, on est entre nous. C'est très bien, d'ailleurs, il y a une question mais je sais qu'il a posé. Les sangs purs sont-ils vraiment supérieurs aux moldus, nés moldus et sans mêlée? Tu veux répondre à ça?
Non, parce que je suis pas très au point sur, sur les sangs purs et tout ça.
Que pensez-vous de l'antispécisme? Ah, alors là, j'ai une position scientifique, on va dire, sur le sujet. Je peux répondre à ça, si... Mais en même temps, vous pouvez peut-être vous rapprocher éventuellement petit à petit. L'antispécisme, c'est le mot qui désigne ce qu'on a vu tout à l'heure dans le documentaire, c'est-à-dire une doctrine de dénonciation de l'ordonnancement des espèces dans leur accès au droit. Vous savez que dans les espèces, dans les individus qui peuplent cette planète, très très peu sont capables d'élaborer un système moral. On peut le présumer chez certains mammifères. Je pense notamment à vous avez déjà vu certainement certains singes à qui on apprend à attraper une cacahuète. Enfin, ils appuient sur un bouton, puis ils ont une cacahuète. Puis, au bout d'un moment, on change le jeu et ils appuient sur le bouton et c'est l'autre d'à côté qui reçoit une cacahuète. Ils trouvent ça injuste, alors ils se mettent à hurler et tout, ils sont pas contents. Et ils ont le sentiment d'injustice. On voit bien qu'ils sont pas contents. On le voit aussi chez les chiens de berger. Quand vous punissez un chien de berger alors qu'il a fait l'ordre que vous lui demandiez, il a un comportement où vous sentez bien qu'il a compris que c'était injuste ce que vous êtes en train de lui faire et il commence à pas vous aimer, quoi. Mais de là à élaborer un système moral avec des droits et des devoirs, il semble que ce soit l'humain qui ait pu développer ça. Il n'y a que lui pour l'instant, peut-être ça viendra, mais c'est assez peu probable quand même que ça arrive. Il faut quand même un cortex préfrontal assez particulier, et puis tout un système qui fait qu'on a réussi à créer du symbolisme qui permet d'anticiper. Vous pouvez acquérir à l'âge de 18 ou 20 ans l'expérience de gens qui en ont 80 parce qu'ils ont laissé des traces symboliques de leur savoir sur des papiers et tout, et vous pouvez les lire, et on a pu transmettre des choses comme ça. Donc on a créé un système moral qui nous oblige, qui nous donne des droits, et qui nous donne aussi des devoirs. On ne peut pas exiger d'individus d'autres espèces d'avoir des devoirs, et ce serait quand même un peu compliqué de leur expliquer qu'ils ne doivent pas faire ceci ou cela, mais par contre, on peut leur donner des droits, c'est ce qu'on a fait, on a été donné des droits aux grands singes, on a donné des droits à nos animaux domestiques, et à notre bétail, et à nos bovins, et aux animaux commensaux, comme on dit, ceux qui nous entourent, et puis on a donné des droits à des espèces protégées, on les protège, d'ailleurs, alors on dit, tiens, tel petit oiseau, il faut le protéger, il faut arrêter de le chasser, etc. On a donné aussi des droits à des essences végétales, des arbres protégés, des parcs naturels régionaux, des parcs UNESCO, etc. Ça, c'est des façons de donner des droits, même à des individus vivants non humains, quoi. Mais l'antispécisme, la question qui est posée par l'antispécisme, c'est est-ce qu'il y a des cas où on sait qu'on va créer une souffrance manifeste chez un individu, parce qu'il ressent des choses, parce qu'il a un système complexe nerveux assez élaboré, et parce qu'il a une capacité projective. Quand je dis une capacité projective, certains parlent de sens-science, c'est-à-dire cette capacité qu'a un individu à se projeter dans une vie épanouie, quoi. Un chien, il a envie d'une vie épanouie. Une vache qui fait un veau, si vous lui retirez son veau, vous allez voir qu'elle ne va pas être épanouie. Elle va brailler tant qu'elle peut, parce qu'elle voit très bien qu'on lui retire quelque chose et qu'elle se projetait et qu'elle ne se projette plus, quoi. Et qu'elle a perdu sa progéniture, quoi. Et donc, est-ce que quand on sait qu'on va augurer de la souffrance comme ça, est-ce que ça légitime certaines formes de plaisir que l'on tire à l'exploitation de ces êtres vivants-là ? Ça peut être sous forme de manger, ça peut être sous forme de vêtements, ça peut être sous forme de domestication pour le plaisir, ça peut être sous forme de spectacle, des dauphins qui sautent et des lions qu'on dresse à sauter dans des cercles en feu ou des choses comme ça, quoi. Et j'avoue que le parallèle avec le racisme et le sexisme me parle beaucoup, parce que j'ai remarqué depuis une quinzaine d'années que je regarde les littératures antispécistes, enfin d'éthique animale, que les arguments qui sont à l'œuvre pour justifier, quand on a envie de justifier une pratique, quand on aime justifier manger un steak ou justifier d'aller au zoo ou justifier d'aller dans un océano ou dans un cirque avec animaux, les arguments qui sont développés sont exactement les mêmes que ceux qui justifiaient les situations d'esclavage, par exemple, avec des documentations racistes ou des cas d'attribution de rôle à des femmes, par exemple, dans les cas de sexisme. Donc je remarque que c'est la même chose. Moi, ça m'avait vachement déconcerté. Je me suis dit, ah ouais, donc en fait, serions-nous spécistes si sur un individu qui est capable de sentir autant de choses que nous, comme, je sais pas, prenez un porc, par exemple, un cochon, quoi, ou une vache, s'il a le même système nerveux que nous et une capacité projective peut-être moins grande, mais n'empêche une capacité projective, comment moralement je peux justifier que j'aille le manger, par exemple? Et j'étais bien en peine d'y répondre. Et depuis, ça m'obsède, et ça m'obsède tellement que, comme je ne trouve pas de contre-arguments, à part des arguments moisis, quoi, j'en trouve aucun de bon, je me dis qu'en fait, non, quel que soit le plaisir que je puisse tirer de la consommation d'un individu non humain, le plaisir gustatif que je peux en tirer, ne vaut pas la souffrance que je lui crée. Alors je commence à devenir lentement mais sûrement végétarien. par cohérence. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde devienne cohérent, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais j'avoue que moi j'aime bien être cohérent avec ce que je découvre sur le plan intellectuel. Alors je me dis, bon, je vois que le racisme c'est débile, donc j'arrête d'être raciste. Je vois que le sexisme c'est crétin, donc j'arrête d'être sexiste le plus possible. Et puis pourquoi continuer à être dans ce cas spéciste? Et puis ben après, ça va poser plein de problèmes. Est-ce que je donne quel droit je donne à un sympathique rat que je trouve très très beau, un rat des champs, qui vient sans arrêt me bouffer ma farine dans mon petit cellier, quoi? Est-ce que je lui donne des droits de venir m'emmerder? Est-ce que ou pas? Est-ce que je donne des droits aux corbeaux qui viennent bouffer toutes les graines des fleurs que je plante? Bien sûr, ça se complexifie. Et puis, ça se complexifie selon les situations. Par exemple, si je suis en train de mourir de faim quelque part, ou non, même un exemple, je vois Julien là qui se fait agresser par un tigre. Si j'ai un fusil dans les mains, bah, je vais essayer de tuer le tigre. Pas parce que le tigre, il ressent pas. Ça se trouve, il ressent la même chose. Je sais juste que je vais le faire pour moi, par calcul, parce que sa famille va m'en vouloir si je ne l'ai pas sauvé lui, alors que la famille du tigre, ils s'en foutent. Et puis en plus, après, je peux être copain avec lui, alors qu'avec le tigre, ça va être compliqué. Donc je me dis, bon, j'ai plus intérêt à sauver lui, quoi. Mais de la même façon, si je suis dans la forêt et que j'ai rien d'autre à bouffer et que je vois un raton laveur, bah, je vais faire la peau du raton laveur, parce que sinon, je vais mourir de faim. Donc là, je fais des choix radicaux, si vous voulez. Mais dans la vie de tous les jours, dans une vie relativement confortable, comme dans un pays riche comme le nôtre, je me dis que quand je peux faire abstraction quand je peux éviter des cas de souffrance gratuite pour un simple plaisir et qui met pas en jeu ma survie, je vois pas pourquoi j'y souscrirais. J'en suis là au bout de 15 ans de réflexion là-dessus. Il y a pas mal de documentation, hein, j'en reparlerai peut-être si j'ai le temps, d'éthique animale, le cours numéro 12, mais de Tom Regan à Yves Bonnardet, là, il y a pas mal de gens qui ont écrit sur ces sujets, Peter Singer bien évidemment. Là, il y a des documentaires de plus en plus qui sortent là-dessus, qui ne sont pas tous très adroits d'ailleurs, mais en tout cas qui introduisent ces questions-là. Et puis je vois que chez les philosophes, c'est un sujet qui prend de plus en plus, que les étudiants prennent de plus en plus à cœur. Qu'est-ce qui légitime la vivisection? Tiens, d'ailleurs, une anecdote, on est là, on est entre nous, on discute. Récemment, là, il y a même pas un an, je ne sais pas si tu sais cette histoire-là, il y a une expo qui a été faite à la Bibliothèque de Lettres, sur cette question de souffrance animale. La souffrance animale était légitime, et si oui, pourquoi, et sinon, pourquoi, etc. Puis la personne faisait une critique antispéciste de la souffrance animale. L'expo était plus ou moins bien foutue, mais peu importe, elle avait le mérite d'être là. La BU de Lettres l'a bien accueillie, puis quand ils sont arrivés au SICD2, c'est-à-dire au SICD1, pardon, le BU de sciences, elle a été exposée pendant une semaine, et puis elle a été retirée manu militari, stac, par l'équipe présidentielle de l'université. Parce qu'ils ont trouvé ça scandaleux qu'on fasse une exposition là-dessus. Donc on s'est dit, bah, c'est marrant, comment ils justifient ça? Et en fait, on a très vite compris qu'il s'agissait de ne pas mettre mal à l'aise les gens qui sont quand même assez nombreux à l'université, qui travaillent sur des questions de vivisection et qui travaillent avec des animaux, etc. Alors on s'est dit, bah, plutôt que de laisser passer quand même, parce qu'ils ont viré l'expo comme ça, sans consultation, sans rien, de manière un peu arbitraire, ça serait cool de solliciter l'université pour qu'ils viennent défendre leur point de vue sur l'éthique animale face à des gens qui revendiquent l'antispécisme. Alors on avait inventé au mois d'octobre un principe au Cortex, on avait développé un système qui s'appelait les disputatios. Je ne sais pas si vous avez vu cet épisode de dispute, où il s'agissait de faire des disputes rationnelles. Vous avez un groupe qui est là, un groupe qui est là, ils ont 20 minutes pour présenter, eux 20 minutes, puis 10 minutes pour répondre, 10 minutes, et ici il y a un jury, il y a moi, puis il y a 2-3 collègues qui sont là, un jury qui vérifie les arguments qui sont présentés, mais surtout qui vérifie qu'il n'y ait pas de sophisme, qu'il n'y ait pas de biais de raisonnement, qu'il n'y ait pas de biais argumentatif pour tromper l'interlocuteur. Et l'idée, c'était de prendre ce sujet-là et d'en débattre. Et alors, depuis quelques jours, je sais que l'université est d'accord pour accepter d'envoyer des représentants pour discuter, défendre le point de vue de la vivisection et de l'utilisation de modèles animaux dans la recherche, par exemple. Et en face, je crois que j'ai trouvé les interlocuteurs qu'il fallait pour défendre l'idée adverse, et de tout ça sans biais de rhétorique, comme nous y habitue un peu trop fortement la campagne présidentielle actuellement, par exemple. Et donc, ça sera peut-être en octobre. Donc, si vous êtes encore là, ou si vous n'êtes même plus là, c'est pas grave, revenez. On fera ça en octobre, je pense. Ici, il y aura probablement l'université représentée dans un coin, et des philosophes éthicistes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, ou moralistes, qui défendront un point de vue différent, quoi. Donc ça, c'était mon point de vue. Il est documenté depuis longtemps, parce que je bosse sur ce sujet depuis longtemps. Je dis pas que j'ai abouti, et je dis pas que j'ai raison, hein, dans ce que je présente. N'empêche que j'en suis là, sur cette question de l'antispécisme. Je ne sais pas si ça répond à la question qui m'était posée, j'espère. Si ça introduit des débats chez vous, tant mieux. Et je regarde s'il y a d'autres questions. Et oui, peut-on se poser les mêmes questions avec les plantes? Effectivement, avec les plantes. Le problème, c'est que le système nerveux des plantes, alors là, vous avez l'expert sur place, quoi, et c'est son dada, mais effectivement, le système de nerveux des plantes ne permet pas d'imaginer le même type de souffrance que l'on augure chez un mammifère, par exemple. Alors, quand bien même, moi, la réponse que je fais souvent là-dessus, c'est quand bien même on trouverait un jour que les salades souffrent quand on les coupe, j'en suis encore pas sûr. Alors, je continue à manger de la salade. Par contre, je suis certain que le cochon que je bouffe, lui, ou la vache que je bouffe, elle souffre. Donc, pourquoi je continue, quoi, vous voyez ? C'est pas parce que la salade souffre aussi ou qu'on a un doute que ça légitime l'autre, quoi. Donc, c'est souvent, on appelle ça l'argument du cri de la carotte. Souvent, on nous dit ça. Ouais, mais alors, dans ce cas-là, le cri de la carotte, etc. Je trouve ça, c'est intéressant, mais plutôt pauvre dans la démarche, quoi. Je vous invite à lire le livre « Le mensonge universel » de Pierre Jovanovic ou regarder la vidéo YouTube dans laquelle il expose le contenu du livre. Il traite du mythe d'Adam et Ève et montre que c'est une traduction incorrecte d'un mythe sumérien dans laquelle la femme et la sexualité ne sont aucunement dévalorisées. Je serais également ravi de savoir ce que vous en pensez. Eh bien, c'est noté. Je le lirai, je promets. Vous citez le XVIIIe siècle comme ère ultime du fixisme. Pourtant, avant Lamarck, Diderot déjà avait affirmé une théorie proto-évolutionniste. Non. Chez Diderot, vous me posez une colle. Je suis étonné, mais peut-être que chez Diderot, il y a déjà une pensée évolutionniste. Mais elle ne doit pas être très construite, parce que c'est quand même pas son domaine, Diderot. Mais je suis étonné. Mais c'est pas l'ère ultime du fixisme, c'est malheureusement pas le 18e. Hein. C'est maintenant. Hein. Des fixistes, il y en a encore. Hein. Il y en a encore dans le gouvernement aux États-Unis, par exemple. Et il y en a dans pas mal de gouvernements dans des pays arabo-musulmans. Hein. Donc non, malheureusement, le 20e siècle, c'est... Peut-être le 22e siècle sera l'ère ultime du fixisme, mais... Diderot, c'est une bonne colle. J'irai chercher, parce que Diderot, c'est quelqu'un que j'aime bien. Pensez-vous trouver un jour une autre évolution extraterrestre intelligente ? Je pense qu'ils nous trouveront avant, et que moi, je les trouve, mais... Je pense que c'est plausible. Mais de là, ce qu'ils arrivent à venir... Vous voyez, il faut quand même qu'ils aient un niveau d'élaboration suffisant pour se permettre un voyage et qu'ils arrivent jusqu'ici. Et s'ils arrivent jusqu'ici, ouais, ça a posé un sacré paquet de problèmes, hein, en termes de droit notamment. Hein. Et s'ils arrivent, oui, ça me semble assez plausible en soi. Je pense qu'ils sont par contre suffisamment loin pour qu'on puisse communiquer qu'à distance. S'il faut un million d'années pour que leur message arrive, bon ben on a le temps de leur répondre quoi, puis après ça va prendre un million d'années pour que ça revienne, on aura le temps de s'exterminer nous-mêmes, enfin si ça se trouve il n'y a même plus d'interlocuteur au moment où on répond quoi. Mais imaginons que ça arrive, là ça poserait un cas génial que les gens en philosophie morale adorent discuter, c'est est-ce qu'il faudra donner des droits à ces gens, enfin à ces individus quoi, est-ce qu'il faudra donner des droits à ces extraterrestres, ou pire, est-ce qu'ils nous donneront des droits, parce que peut-être qu'ils seront plus balèzes que nous. Mars Attack, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez de Mars Attack. Et eux, ils ne nous donnaient pas de droit, un peu. Ils nous défonçaient dans tous les sens. C'est une grave question, la vie extraterrestre. Et on a un copain qui s'appelle Nicolas Crozatier qui bosse sur cette question. Il aime beaucoup cette question-là. Et il y a un autre groupe de M2 de philo là, qui bosse sur les extraterrestres et les droits potentiels qu'on pourrait leur donner. Le droit extraterrestre existe déjà hein, depuis 1965 ou 6, je crois, quand soviétiques et états-uniens sont mis d'accord pour l'exploitation des objets extrastellaires comme les comètes, la Lune. Je sais que sur la Lune, ça avait été très formalisé. Qui peut exploiter quoi sur la Lune, etc. Donc on se donne des droits, mais aux humains, sur place, quoi.